France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui les Grecs et la mer dans l'Antiquité. Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Platon. D'histoire. Dans un pays dont aucune cité n'était à plus de 100 km de la mer, on comprend quelle importance elle a eue dans l'histoire de la Grèce. De même qu'Hérodote disait de l'Égypte qu'elle était un don du Nil, on peut dire de la Grèce qu'elle était un don de la mer. Grâce à elle, Athènes est devenue un empire. Et avec leurs marines, Phocée, Corinthe, Mégare et Milet, ont fondé à Marseille, Syracuse, Byzance et Trébizonde des colonies florissantes sur toutes les côtes de la Méditerranée et de la mer Noire, du détroit de Gibraltar jusqu'au pied du Caucase. On y faisait le commerce du blé d'Égypte et de Sicile, du vin d'Italie, de l'étain d'Angleterre, de l'ambre de la Baltique, du cuivre et du bois venus d'Asie et de l'ivoire d'Afrique. Source de richesses, la mer était aussi, avec ses tempêtes, ses naufrages, ses pirates et ses monstres, une source d'inspiration pour l'auteur du premier monument de la littérature, Homère, qui dans l'Odyssée racontait les tribulations de celui qui, en passant des années en mer avant de retrouver sa femme à Ithaque, est devenu le plus célèbre marin de l'histoire.
Il n'y a pas de vent, mais nous avons un bon courant. Maintenant, tu peux être content.
Tu ne l'es pas, toi ?
Je ne suis jamais satisfait, moi. Un jour, je regrette la famille. Je voudrais rentrer à la maison et je deviens triste et sombre. En moi, il y a un autre qui attend sa part et qui réclame l'aventure, les voyages, la mer et aussi ses tempêtes. Il a tellement soif d'inconnu, tout l'attire, les îles, les démons, les géants.
Ah, quelle étrange odeur il y a dans l'air.
Oui, en effet. Quel silence. Je n'entends même plus le bruit des rames.
Regarde ! Le rocher des sirènes. Les sirènes, si nous écoutons leur chant, nous sommes perdus. Elles nous attireront sur leur rocher pour nous détruire. Fuyons et les fuyons.
Ne restons pas là, ici, ne perdons pas de temps.
Jean-Nicolas Corvisier, bonjour. Alors, dans votre livre, Les Grecs et la mer, qui vient d'être publié aux éditions Les Belles Lettres, on retrouve tous les auteurs grecs qui, depuis Homère et son Odyssée, parle de la mer, elle est omniprésente dans la littérature de la Grèce, comme d'ailleurs dans son histoire et sa géographie, vous le rappelez, pas un point de la Grèce qui ne se trouve à moins de 100 km de la mer. Elle était pour eux, dites-vous, un mal nécessaire.
Oui, un mal nécessaire dans la mesure où ils ont besoin de la mer, ils ont de plus en plus besoin de la mer, mais ils ne l'aiment pas. Et vous parliez tout à l'heure de Platon. Platon est vraiment le comble du refus de la mer pour un grec. Pensez à cette phrase qui a été citée tout à l'heure en exergue à votre émission, le fait qu'il y a trois sortes de gens, ceux qui vont sur la mer étant la troisième sorte, la moins bonne. Pourquoi ? Simplement parce que la mer est totalement en dehors de la cité. Le monde de Platon, c'est le monde de la cité, c'est un monde dans lequel tout est réglé, tout est ordonné. Le monde de la mer, en revanche, n'est absolument pas ordonné, ni mentalement. Les marins ne sont pas ordonnés. On ne peut pas prévoir le temps sur la mer. Un port, ça n'est pas une cité. Mais pourtant, on a besoin de la mer, ne serait-ce que pour avoir les produits qui vous manquent.
Alors, il y en a un qui, en revanche, lui accorde une grande importance, c'est Thucydide, qui dit qu'au fond, elle est à l'origine de la puissance et de l'expansion de la Grèce. D'ailleurs, très tôt, il y a 2800 ans déjà, les grandes cités grecques, quelques cités grecques, pas Athènes, mais d'autres cités, vont aller coloniser toute la Méditerranée, installer des colonies un peu partout. À quoi correspond ce besoin de partir de Milet, de Phocée, par exemple, pour aller très loin en Méditerranée, jusque dans la mer Noire ?
Je crois qu'il faut faire la part déjà de l'aspect psychologique, le besoin de connaître l'inconnu, d'aller un petit peu plus loin. Mais indépendamment de cela, les sources antiques pensaient que la colonisation s'était faite pour des raisons de nourriture, manque de blé, trop de gens présents à la terre. Ils pensaient qu'elle s'était faite pour des raisons commerciales. Il faut ajouter à cela les raisons politiques. À l'intérieur d'une cité, parfois, nous avons des gens qui sont indésirables et qui pourtant font partie des grandes familles. Il vaut mieux s'en débarrasser, comme d'ailleurs la colonisation à des périodes beaucoup plus récentes a été un exutoire pour toutes les familles dont les jeunes, disons, auraient fait des bêtises.
Alors on peut citer quelques cas assez extraordinaires. Hein. Byzance, qui a été fondée par la ville, la cité de Mégare. Corinthe, qui a fondé une très grande colonie, très importante en Sicile, qui était Syracuse. Il y a également la mer Noire, hein, colonisée par, essentiellement par des habitants de Milet, hein, qui se trouvaient en Asie mineure, sur les côtes de l'actuelle Turquie. Et puis alors évidemment, Massilia, hein, fondée par Phocée. Alors, qu'est-ce qui pousse non seulement les Grecs à installer des colonies, mais même à aller très au-delà de la Méditerranée, au-delà du détroit de Gibraltar? La mer aussi, ça a été un terrain pour les explorateurs grecs qui ont été très loin. On les connaît beaucoup moins bien que ceux des grandes découvertes du 15e ou du 16e siècle en Europe, mais ils ont été extrêmement loin.
En réalité, je crois qu'il faut remonter aux Phéniciens, qui ont été les premiers à dominer la Méditerranée et à établir des routes commerciales en Méditerranée et même outre-Méditerranée. Et les Grecs ont simplement essayé de remplacer, de supplanter, puis sont parvenus à remplacer les Phéniciens. On s'en rend compte en matière géographique. Quand on prend leur route commerciale, la fondation, par exemple, de Cyrène, en Libye actuelle, coupe la route commerciale, qui était la grande route commerciale des Phéniciens, qui allait des cités de Phénicie à la Crète, et ensuite vers Carthage, la Sicile, et ensuite les colonnes d'Hercule, outre
c'était le détroit de Gibraltar, même, les colonnes d'Hercule, oui.
C'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Et en établissant cette colonie de Cyrène, les Grecs, finalement, coupent cette route et établissent une véritable croisée, une croisée nord-sud qui va des détroits, le Bosphore, les Dardanelles, jusqu'à Cyrène, d'une part, et d'autre part, des îles grecques qui jouxtent l'Asie mineure jusqu'aux colonnes d'Hercule.
Mais évidemment, et au-delà. Autour de l'Afrique, c'est assez extraordinaire qu'il y a 2500, 2600 ans, on commence déjà, il y a des navigateurs grecs qui commencent à faire le tour de l'Afrique, donc en partant des colonnes d'Hercule pour aller vers le sud, et puis même un qui serait allé jusqu'en Islande.
Oui. Alors là, c'est encore lié, du tour de l'Afrique aux Phéniciens. Mmh. Ils ont essayé de refaire le périple de Nécao, ce fut le cas d'Annon. Et quand il s'agit d'aller jusqu'en Islande, eh bien, ils vont à la recherche de l'étain, cet étain qui leur manque cruellement, puisque tout leur métal, c'est le bronze. Comment faire du bronze si on n'a pas d'étain? On peut essayer de le faire à l'arsenic, mais il est beaucoup moins solide. Et l'étain, il n'existe plus à l'état natif, à l'époque qui nous occupe. Il y avait encore un petit peu d'étain à la fin du deuxième millénaire en Orient. Il n'y en a plus et ils n'ont plus vraiment de contact avec l'Orient. Donc, il faut qu'ils aillent le chercher plus loin. Plus loin, c'est outre colonne d'Hercule. Ce qu'on appelle les îles Cassitérites dans la géographie grecque, probablement la Brière et même surtout vers l'Irlande. Et évidemment, une fois qu'on est en Irlande, on est poussé par les tempêtes. Et ainsi, ils ont découvert la marée, qui est un phénomène qui leur était absolument inconnu et qui ne pouvait que leur faire peur.
Alors, il s'était surtout Pythéas, qui était parti de Marseille, qui est allé jusqu'en Islande, dans la Baltique. Enfin, c'est ahurissant. Oui. Pour cette époque, on était, encore une fois, je le répète, il y a 2500 ans et sur des bateaux à rames et à voile, dont les marins avaient très mauvaise réputation.
C'est un beau navire.
C'est un très beau navire. Il est prêt à naviguer.
Il faut qu'on lui donne un nom. Je l'appellerai l'Argo, du nom du constructeur.
Avant de lui donner son nom, viens donc regarder la figure de proue. Quand apparaît-on?
Demain.
Tambour, marque la cadence, mais garde un rythme normal. Il grommelle. C'est de règle chez les marins.
Pour cela, les raisons de se plaindre ne manquent pas. Notre eau est épuisée. Ils ont les mains en sang.
Il y a de la saumure.
Explique-toi.
Ça durcit la peau.
Eh bien, descends les soigner. Moi, je prends le gouvernail.
Alors, la vie à bord, on s'en doute, était extrêmement difficile, Jean-Nicolas Corvisier, hein, à cette époque-là, il y a 2500 ans.
Bien sûr.
Il y avait les tempêtes, il y avait les naufrages, il y avait le manque d'eau, on l'a entendu, qui obligeait à faire des trajets très courts.
Et oui, parce que le monde marin est un monde inhospitalier. En fait, c'est un monde dans lequel on est obligé d'emporter son eau pour pouvoir survivre. L'exploration maritime, finalement, c'est la même chose qu'à notre époque, l'exploration spatiale, où on doit emmener son air pour survivre. D'autre part, le marin, qu'est-ce que c'est pour un Grec ? C'est quelqu'un qui vit d'une façon désordonnée. Dès qu'il débarque, il se répand dans tous les lupanars de la ville. L'idée, une femme dans chaque port, c'est quelque chose que l'on trouve déjà dans la littérature antique, mais ça n'est vraiment qu'au gré d'un tout petit passage du roman grec qu'on apprend l'interdiction de l'acte sexuel sur mer. Par conséquent, même dans les grandes traversées, pour des raisons religieuses, pas d'axe sexuel, on s'étonne évidemment de leur débordement ensuite.
Très mauvaise réputation, hein, le marin à laquelle la Grèce doit tant de choses, Platon le détestait comme il détestait la mer, en tout cas il le méprisait.
Bien sûr, parce que le marin, c'est pas quelqu'un que l'on peut réduire à l'ordonnance normale de la cité. Le marin, on en a besoin. Le marin, si c'est un rameur, eh bien c'est quelqu'un qui va ramer, mais on se gaussera de ses fesses usées, on se gaussera du fait qu'il se promène sans cesse avec son aviron. C'est donc pas quelqu'un qui fait la guerre, noblement qui fait la guerre, comme l'hoplite, en voyant l'ennemi face à face. Il n'y a pas de vertu, il n'y a pas d'arrêté, pas de courage chez le marin.
C'est un pirate aussi, hein, justement. Mais alors, ce qu'il y a de curieux en vous lisant, Jean-Nicolas Corvisier, c'est que la piraterie est tolérée à l'époque d'Homère ou de Périclès. C'est pas monstrueux, c'est comparé à la chasse.
Oui, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la différence entre piraterie et course n'est pas faite. En grec, il n'y a pas de mot pour désigner la course. L'esthès, c'est à la fois le pirate, le corsaire. La piraterie peut donc être une forme de guerre. D'autre part, il est tout à fait licite de se procurer des biens, que ce soit par la razzia ou que ce soit par la piraterie sur mer, à condition que ça ne soit pas au détriment de ses concitoyens. On en arrive au point même qu'à l'époque hellénistique, la piraterie est devenue un moyen de progression territoriale des États. Les États englobant des cités, dans le cadre d'États fédéraux, bien entendu, de façon à ce que ces cités soient protégées contre la piraterie. Les Étoliens étaient très forts dans ce domaine.
Alors il y avait, selon qu'on était pirate, qu'on était commerçant, on en parlera, que l'on était pêcheur aussi, ou qu'on était marin de marine de guerre, il y avait des bateaux très différents, des bateaux ronds, dites-vous, plutôt, dans le cas du commerce, on en parlera. Et puis alors des bateaux effilés, des bateaux redoutables, qui étaient les trières. Rappelez-nous en quoi ça consistait, Jean-Marie Corvisier.
La trière, c'est un bateau très long. Le rapport longueur-largeur est de l'ordre de 1 à 8, parfois même 1 à 9. C'est un bateau à 3 rangs de rameurs superposés. Par conséquent, nous avons 180 rameurs sur ce bateau. Il est uniquement dirigé vers la vitesse et uniquement dirigé vers l'éperonnement.
36 mètres de long, hein, je crois. Il y a un dessin, justement, de ces trières. Et puis des vitesses, effectivement, 10 nœuds, hein, c'est-à-dire 18 km/h. Alors, ce sont essentiellement des navires de guerre, hein, qui se distinguaient dans toutes les grandes batailles navales de l'histoire de la Grèce, comme celle qui avait sauvé Athènes d'une invasion perse à Salamine en 480 avant notre ère.
Notre cité est en danger. C'est par la mer que nous gagnerons le Pirée.
Direction du Pirée, tout à bâbord.
Tout à bâbord.
Navire en vue à la proue.
À signaler au navire amiral.
Hissez la voile.
Nous attaquerons au centre, les autres sur les flancs.
Ramez plus vite. Ramez plus vite. Avançons, droit vers le navire. Ouvrez les rostres.
Attention aux rostres.
En arrière.
Préparez-vous à l'attaque.
L'autre navire aussi. Frappez au milieu.
Il nous attaque à la nage. Harponnez-les.
Il nous attaque à la nage, c'est-à-dire avec les rames. Harponnez-les, ouvrez au rostre. Les rostres, c'était évidemment les éperons. Il y a, dites-vous, Jean-Nicolas Corvisier, deux grands moyens de se battre en mer à l'époque des Grecs. C'était l'abordage et l'éperonnement.
L'abordage, c'est le moyen de départ au moment où les Grecs sont encore des terriens, mais à partir de la fin du VIe siècle, au moment où se mettent en place des bateaux qui ne sont pas encore tout à fait les trières, mais presque, on passe à l'éperonnement, le but étant de briser la coque du navire adverse, soit en l'éperonnant directement de côté, soit en le désemparant d'abord, on passe au milieu de la ligne adverse, très rapidement, de façon à casser ses rames. On a juste pris soin de relever ses rames avant d'arriver au contact. On bénéficie de la vitesse acquise, on casse les rames de l'adversaire, qui évidemment devient le jouet des vents, devient le jouet des remous, et il est très facile de l'aborder de côté ou de l'aborder de trois quarts face, en faisant bien attention de ne pas glisser sur son propre éperon, et en faisant bien attention aussi de ne pas l'éperonner trop, de ne pas être pris par l'effondrement du navire et par le moment où, ne disons pas il coulera, car les coques des trières ne coulaient pas, mais elles se retournaient. Mmh. On les réutilisait d'ailleurs après la bataille.
Alors évidemment, ça dépendait de la puissance des marines de guerre des cités grecques. À quoi servaient ces marines de guerre, en fait? Parce qu'on sait, on était plus ou moins d'accord sur le fait d'en construire. Il y avait des gens qui se méfiant des marins, qui se méfiant de la mer, considéraient qu'il ne fallait pas le faire. Et puis il y a Thémistocle, par exemple, à Athènes, qui a construit la marine suffisamment puissante pour sauver Athènes à Salamine d'une invasion des Perses. Quels étaient les objectifs de ces marines de guerre?
Au départ, les objectifs de la marine de guerre, c'était simplement s'opposer à la marine de guerre des Perses et s'opposer à toute tentative de débarquement. Mais progressivement, on est arrivé à une véritable stratégie de la mer, les marines servant à la fois à protéger les routes commerciales, à lutter contre les pirates et en même temps à s'opposer à toute razzia, puisque une partie de la guerre, c'est une razzia, c'est un débarquement. Et là, nous arrivons à la fameuse stratégie de Périclès, transformer Athènes en île, que les Athéniens soient à l'abri derrière les murailles d'Athènes, les longs murs et les murailles du Pirée.
Oui, parce que Athènes est la ville proprement dite est loin de la mer, et on a construit des murailles pour protéger le chemin qui conduisait d'Athènes jusqu'au port du Pirée.
Tout à fait. D'ailleurs, cet éloignement du port est quelque chose de tout à fait normal dans le monde grec antique. Alors, cette stratégie de Périclès, c'est on s'abrite derrière nos murailles, peu importe que l'ennemi vienne faire des razzias chez nous, mais nous, on a notre port, on peut se déplacer sur son territoire où l'on veut, faire des razzias n'importe où, revenir avec tout ce que l'on aura pu piller comme butin, et l'ennemi finira par ne plus aller chez nous parce qu'il a trop peur qu'on aille chez lui.
Alors cette marine de guerre, notamment la marine athénienne, elle sert aussi à réprimer la révolte des alliés, parce qu'une fois passé le danger perse, Jean-Nicolas Corvisier, à ce moment-là, Athènes commence à étendre son hégémonie, hein, le mot je viens de là justement, sur plusieurs cités. C'est un véritable empire maritime qui se construit donc à partir de ce moment-là, un empire maritime qui est incarné par une ligue qu'on appelle la Ligue de Délos, hein, peut-être rappeler en quoi elle consistait.
Oui, c'est un véritable empire maritime, effectivement, même si, au départ, Athènes n'est venue à la mer que par Racros, vous citiez Thémistocle.
Oui, elle n'avait pas de colonie.
Hein. Elle n'avait pas de colonie, elle n'avait pas participé à la colonisation. Mais vous citiez Thémistocle. C'est Thémistocle qui a proposé d'appliquer à la construction d'une marine de guerre un revenu tout à fait extraordinaire qui arrivait à Athènes. On avait découvert un nouveau filon dans le Laurion, un filon d'argent. Plutôt que de distribuer l'argent à tous les citoyens, construction d'une marine de guerre, ce qui a amené Athènes progressivement d'abord à se sauver elle-même. Vous parliez de Salamine, Athènes a été protégée selon l'oracle par ses murailles de bois. Et lorsque Sparte s'est retirée de la guerre contre les Perses, considérant que le territoire grec était à l'abri des Perses, ça ne servait à rien de continuer à se battre et on n'avait aucune raison d'aller continuer la guerre, les Athéniens, eux, ont pris prétexte du fait qu'ils pouvaient continuer la guerre pour créer autour d'eux une alliance d'un certain nombre de cités qui étaient essentiellement des îles, qui étaient intéressantes pour les Athéniens aussi pour leur propre commerce. Et en bénéficiant de la marine de guerre qu'ils avaient créée, ils avaient 200 trières, ils ont créé une véritable alliance maritime, une alliance maritime dont le trésor de guerre était à Délos, d'où ce nom de Ligue de Délos qu'il a
une
eu extrêmement rapidement, mais qui est aussi une île chère à tous les Grecs, puisque c'est l'île d'Apollon. Et cette alliance s'est transformée en un véritable empire à partir du moment où ils ont fait payer les alliés pour leur défense. Les alliés ont préféré le principe payer pour avoir la protection des bateaux athéniens, payer pour que ce soit des marins athéniens qui soient sur les bateaux, plutôt que d'entretenir soi-même une marine de guerre, parce que le coût d'une marine de guerre est faramineux.
Alors cela dit, certains de ces cités se sont révoltés justement contre Athènes, jusqu'à ce que se produise le déclin d'Athènes au profit de d'autres cités, notamment de l'île de Rhodes, qui au IIIe siècle avait construit à l'entrée de son port une gigantesque statue d'Apollon, une des sept merveilles du monde, le colosse de Rhodes.
Ce monument témoignera auprès des générations futures de la puissance de Xerxès. Désormais, Rhodes domine les mers.
À toi, Apollon, dieu du soleil, nous consacrons cette inviolable et colossale effigie. Que le feu sacré qui brûlera désormais sur cet autel, plus haut que la cime de l'Olympe, soit le guide des navigateurs amis perdus dans les ténèbres et foudroie les ennemis qui oseraient s'attaquer à Rhodes.
Le colosse fait de notre port la seule escale inviolable de la Méditerranée. Et notre intérêt nous commande d'accueillir dans ce refuge tous les navires, à quelque pays qu'ils appartiennent.
Alors Rhodes, effectivement, va prendre le relais d'Athènes. C'est un grand port qui devient effectivement une cité très importante en Grèce à ce moment-là.
D'une part, c'est une cité très importante, mais d'autre part, elle bénéficie de ce changement du centre de gravité de la Grèce qui, avec la conquête d'Alexandre, se déplace vers l'Orient, se déplace également davantage vers les détroits. Et c'est ainsi que Rhodes va prendre le relais d'Athènes pour lutter contre la piraterie. Rhodes va prendre le relais d'Athènes pour contrôler le commerce nord-sud, détroit, passage par Rhodes et l'Égypte. Vous voyez que les centres de gravité se sont déplacés. Et en même temps, Rhodes va lutter contre toutes les pirateries. Rhodes est une cité dans laquelle il est tout à fait normal de faire son service, si j'utilise un terme moderne, dans la marine. C'est-à-dire que nous ne sommes plus à l'époque où les marins sont déconsidérés.
Alors, Rhodes, c'est aussi une cité commerçante comme beaucoup d'autres. Il y a une activité maritime dont nous n'avons pas encore parlé, mais dont vous parlez longuement dans votre livre, Jean-Nicolas Corvisier. C'est évidemment le commerce, hein. Le commerce qui est très actif en Méditerranée entre toutes les cités. Dites-nous d'abord en quoi consiste ce commerce? Quels sont les produits qu'on échange? Quelles sont les activités commerciales dans les ports?
Bien, je vais beaucoup vous surprendre en disant que le commerce maritime a toujours été un commerce de luxe. Pourquoi? Eh bien parce que le coût du transport maritime est tel qu'on ne peut pas transporter un produit qui n'est pas de valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire qu'on ne transportera pas du blé, ça ne veut pas dire qu'on ne transportera pas de l'étain, voire même du cuivre, mais parce que ces produits, au moment où on les transporte, sont des produits de luxe.
Le blé, hein, c'est quand même le produit, peut-être pas de luxe, si, enfin il l'est, parce qu'on en manque. Athènes, par exemple, l'Attique manque de blé qui va venir de Syracuse, qui va venir de Grèce. Hein, c'est la grande activité commerciale.
Bien sûr. Le blé d'Égypte, d'abord, le blé de Sicile, le blé du Pont-Euxin, avec notamment toutes les zones particulièrement productrices que nous trouvons autour d'Olbia Pontique, c'est-à-dire que nous trouvons en Crimée. Mais le blé, quand le transporte-t-on? Au moment de la soudure, au moment où on en a le plus urgent besoin. Et là, le surcoût du transport maritime ne vaut pas. Le cas le plus surprenant, c'est le cas de Cyrène, dont nous trouvons mention sans cesse quand il s'agit de famine. Le blé de Cyrène, or pourtant le territoire de Cyrène est très exigu. Cyrène produit très peu de blé, mais les sources le mentionnent sans cesse, parce que c'est un blé qui arrive en primeur, 15 jours avant les autres. Et les Cyrénéens préfèrent vendre leur blé au moment où le prix du blé est le plus cher, et une fois que le prix s'est effondré, la récolte est arrivée, ils en rachètent.
Il y a aussi les métaux, hein, vous l'avez cité, l'étain, le fer, etc. Et puis également les poissons séchés. On n'a pas parlé de la pêche, la mer, c'est aussi la pêche. Et le poisson, c'est une nourriture importante pour les Grecs, en tout cas pour les plus pauvres. Hein. Ce n'est pas un produit très réputé sur les tables des riches.
Il n'y a pas de milieu, il y a à la fois le poisson pour les pauvres et ce poisson que l'on peut conserver, que l'on sale, que l'on fume. Mais il y a la gastronomie du poisson, ce qui est une gastronomie un petit peu particulière. Il est vrai qu'il se répand surtout à la période hellénistique et à la période impériale. Mais le pêcheur, c'est un personnage qui apparaît dans les sources assez souvent, mais comme un individu, et on ne voit pas suffisamment la grande pêche, cette pêche au thon qui était le grand poisson de la Méditerranée, qui pullule, et notamment qui pullule au niveau des détroits, puisque le poisson va frayer en mer Noire dans les zones les plus fraîches, et puis ensuite revient en banc extrêmement serré vers le reste de la Méditerranée. À en croire les sources anciennes, on pourrait quasiment prendre les thons à la main à partir de régions comme Byzance ou comme Sinope.
Puis un animal fétiche, le seul qui ne soit pas un poisson, donc je ne cite pas comme poisson, mais c'est le dauphin, hein, qu'on voit d'ailleurs sur toutes les reproductions des céramiques de Grèce.
Et oui, parce que le dauphin, finalement, la distinction poisson pas poisson, les Grecs ne l'avaient pas, mais le dauphin est un animal béni des dieux, et le monde marin est un monde qui demande sans cesse l'intervention des dieux, et dans lequel, d'ailleurs, les dieux peuvent être extrêmement virulents. Vous parliez tout à l'heure de l'Odyssée, mais indépendamment des tribulations d'Ulysse, on sait très bien que les dieux sont extrêmement méchants pour les marins.
Source de richesse, donc, source de commerce, champ de bataille aussi, c'est aussi une source de civilisation. C'est ça, au fond, que la mer a peut-être apporté à la Grèce, grâce au contact qu'elle a mis entre les cités, très au-delà, d'ailleurs, de la Méditerranée et de la mer Noire. C'est ça, la vraie richesse, au fond, de ce qui a fait de la Grèce une grande civilisation, Jean-Nicolas Corvisier.
Oui, finalement, qu'ont été les Grecs sans la mer ? Qu'aurait-il été sans la mer ? Il n'aurait pas connu tout ce qui est connaissance scientifique de l'Orient. La mathématique, la médecine, ça vient d'Orient. D'autre part, les connaissances géographiques, dès la fin de la période archaïque, c'est au contact avec le monde oriental qu'ils l'ont eu. Et en plus, la mer, en leur permettant de connaître un autre monde, leur a permis de se situer eux-mêmes. Je crois qu'il y a une expression qui est tout à fait caractéristique parmi les mots qui désignent la mer. C'est le mot pontos. Pontos, c'est le chemin. Et bien finalement, la mer a été pour les Grecs un chemin, une voie de civilisation, et elle leur a permis, en connaissant les autres, d'essayer de se connaître eux-mêmes.
Merci Jean-Nicolas Corvisier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Les Grecs et la mer, qui vient de paraître aux éditions Les Belles Lettres dans la collection Realia. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Ulysse de Mario Camerini, disponible en DVD aux éditions Fabry. Jason et les Argonautes de Don Jaffé, disponible en DVD chez Columbia Tristar. La bataille de Marathon de Jacques Tourneur et Le Colosse de Rhodes de Sergio Leone, disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pierre-Yves Le Rollin et Elisabeth Collet, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Frédéric Martin, une réalisation de Anne Comilac.